C'était une dérision, hein. Il nous parlait toujours de Grütli, de cette Suisse. On nous faisait encore croire à l'école que Guillaume Tell avait existé. On nous faisait croire que le général Guisan avait sauvé la Suisse de l'invasion nazie. On nous faisait croire que tout ça. Puis on a été un peu dessillés, nous, hein, quand on a été confrontés à ça. Et puis on s'est dit, on a fait plusieurs choses. On faisait des actions non violentes et si possible amusantes. Pour les énerver, quoi. Ah oui, le 1er avril au Grütli, je crois bien que c'est moi qui avais fait une espèce de discours, mais on avait bien rigolé. On rigolait bien. On finissait des fois en tôle, mais on rigolait bien. On avait aussi fêté le 14 juillet au Franche-Montagne. Ils venaient fous avec des drapeaux français. Ça suffisait à les énerver terriblement.
Ce 1er avril au Grütli, où les béliers sont venus manifester, vous avez tenu un discours. Il y avait évidemment un aspect transgressif, et même la volonté de transgresser, de bousculer cette Suisse de l'époque ronronnante, bien pensante.
Absolument, puis qu'on était les meilleurs, ils ont encore un peu cette tendance, hein. Il n'y a qu'à voir l'attitude de l'UDC, etc. Puis on est meilleur que tout le monde, on est les plus purs, on a créé la Croix-Rouge, et puis quand on sait comment ils sont comportés avec les Juifs en 39-40, il n'y a peut-être pas grand-chose à vanter. Mais bon, on peut aussi comprendre qu'on ne pouvait pas résister à Hitler, mais non plus pas nous faire croire qu'on y avait résisté. Quand le général Guisan, ce grand stratège, avait tout son état-major réuni, ben c'était aussi au Grütli, il ne suffisait de pas grand-chose pour qu'il n'y ait plus un officier dans l'armée suisse.
On est en avril 68, juste avant des événements de mai 68, il y a aussi un bouillon aussi culturel, aussi au niveau de la jeunesse qui se met en marche à ce moment-là, pas seulement dans le Jura, mais aussi dans le Jura à travers ces actions du Bélier.
Oui, oui, on avait un pote au Bélier, c'était l'Antoine Ullmann, dit le Lux, qui était plus âgé que nous et qui avait travaillé à Paris à cette époque. Et il avait travaillé dans pas mal de pays. Il bossait pour les fours électriques et il allait réparer des fours dans différents pays. Et il avait une maturité que nous n'avions pas. Et puis c'était lui, un petit peu l'esprit du Bélier, en fait. Il était plus mûr que nous, puis il nous a souvent remis. On était encore un peu des gamins, nous. Puis moi, je venais du Sud, on ne faisait pas de politique dans le Sud, on était séparatistes. Moi, je ne savais même pas. J'étais à gauche, mais je ne le savais même pas. J'avais lu Germinal quand j'étais tout gosse, ça m'avait foutu complètement. Mais je n'étais même pas la gauche, la droite. On n'était pas politisés, politicards comme les Ajoulot, par exemple. Je ne le reproche pas, mais enfin, ça a quand même causé bien des dissensions, quoi. Nous, c'était les Jurassiens. Puis on se faisait casser la gueule, puis on se faisait mépriser par les Premières-Noires. C'était ça le Jura Sud.
Des manifestations, vous en avez fait beaucoup avec le Bélier en ville de Berne, avec aussi le côté un petit peu humoristique de tout ça, c'est qu'il fallait échapper à la police. Il y avait un peu des stratégies qui se mettaient en place, mais pas forcément préparées à l'avance.
Non, surtout pas. C'est-à-dire qu'on disait à nos gars, quand l'action est faite, il faut vous tailler, qu'on en chope le moins possible. Parce qu'après, on avait la camionnette de Pierino Tarquini, on lui volait sa camionnette, pour amener le matériel qu'il fallait, etc. Puis après les manifs, souvent Michel Gury, moi ou du responsable du Bélier, on allait les récupérer à la police de Berne, ceux qui étaient cassés, pas cassés. Mais... Et puis moins on avait de manifestants qui s'étaient fait attraper, moins on payait d'amende. Et il y a eu des trucs très rigolos. Il y en a un qui s'était carrément sauvé. Il était entré dans une boutique de coiffeur. Il s'était mis sur un siège. Il s'était carrément mis le peignoir autour du cou. Il y en a deux. C'était l'époque des longs cheveux. Deux qui se sont arrêtés soudain, qui ont fait semblant de s'embrasser. Ils s'enlaçaient. Les flics ont passé tout droit. Il y a même des fois des Bernois qui disaient « Venez vite vous cacher chez nous » parce qu'il y avait des Bernois qui nous trouvaient sympathiques quand même. Il faut arrêter d'avoir cette haine systématique contre le peuple bernois. Moi, j'en ai toujours voulu au gouvernement d'ailleurs. Quand on avait au comité du Bélier un gaillard haineux qui arrivait, je disais « Toi, il faut te mettre avec les sangliers. Nous, on se bat par amour du Jura, pas par haine des Bernois. »
Il y avait quand même aussi un côté un peu amusant dans tout ça, de jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais il n'y avait pas que de l'amusement, parce qu'il y avait quand même des coups à prendre, hein, pour le coup, mais vraiment des coups au sens propre du terme, premier du terme.
Ouais, on en prenait, mais on en donnait aussi, hein, j'entends. Mais on était non-violents. Et quand il y avait de la violence, c'est toujours les flics qui la provoquaient. Ils venaient au milieu de nos manifs à Berne, ils commençaient de castagner, quoi. Et puis voilà, après, j'ai un exemple magnifique. Je venais d'arriver à Courcelon, comme Rété, Et puis, les gars du Bélier me disent, il y a un Courcelon, il s'est fait un moché, une manif. Il saignait, il a dû à l'hôpital se faire recoudre. C'était des gens vraiment très humbles. Alors écoute, tu vas, parce qu'on récoltait du fric au Bélier, on faisait beaucoup de fêtes pour aider ceux qui étaient en prison, pour aider ceux qui avaient des histoires comme ça. Et puis j'étais allé trouver ces gens qui ont donné d'ailleurs des amis formidables. C'était Laurent Fleury. Et puis ces gens, ils m'ont dit, il n'est pas question que je fasse payer 5 centimes au Rassemblement jurassien. Ils ont payé eux-mêmes les frais médicaux. C'est des tellement belles choses. J'ai tellement vu de belles choses chez ces petites gens que Roland Béglin appelait la piétaille, que j'ai un certain respect pour la piétaille.
Une autre anecdote qui concerne là le 23 juin, avec un journaliste, parce que ça faisait quand même aussi partie un petit peu des volontés du Bélier, d'essayer de convaincre des journalistes de l'importance du combat jurassien. Vous étiez tombé sur un journaliste avec lequel vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde.
Oui, il faut dire, au départ, on avait toute la presse contre nous, hein, toute la presse romande. Hein. Et puis celui-là, il donnait les nouvelles, je me rappelle. Il donnait les nouvelles à la télé, c'était à Genevois. Et puis une fois, il l'avait embarqué chez moi, la façon dont les jurassiens recevaient, du Nord recevaient les journalistes, mais entrer, j'étais tombé sur une équipe de Belges, ils étaient pas mal, hein. C'était toute une équipe qui me disent, mais c'est incroyable chez vous une fois, hein. On va chez quelqu'un, on frappe, la dame nous dit, mais entrez seulement, hein. Ce seulement, c'est peut-être en germanisme, j'en sais rien, mais en tout cas, entrez, c'est pas suffisant, entrez seulement. Qu'est-ce que vous voulez boire ? On nous propose, on nous fait asseoir, on nous propose à boire avant même de savoir ce qu'on veut. Puis les journalistes s'étaient accueillis, mais naturellement, bien. Et alors que dans le Sud, ils se faisaient casser la gueule, quoi. Les fascistes n'ont jamais supporté la presse, on le sait. Ah ouais, celui du 23 juin. Alors, il était dur à convaincre. On n'a vraiment pas su. Mais il était toujours réticent. Et le jour du 23 juin, c'est vrai, vers le soir, vers les 5 heures, il avait une espèce de manteau, un peu comme Columbo, en moins crade. Et puis, il était fin rond sur un trottoir. Vive le Jura ! C'était magnifique, quoi. C'était formidable. On était contents, nous, ça suffisait.
À ce moment-là, il avait compris ce que ça représentait, le combat jurassien.
Vu ce que c'était que le Jura qui était heureux. Ça a duré 2-3 jours, la fête. Et le lendemain, il y avait mon copain Vauca, il y avait encore la fête à travers tout les monts. Nous, on avait fait un beau feu sur la place de la gare. Et puis, il y avait le Vauca qui jouait du tambour. Proum, proum, proum. Puis, c'était la folie, quoi. C'était le bonheur, c'était magnifique. Et puis, il y a un Français qui débarque à la gare. Il voit ça, c'était un voyageur de commerce, je ne sais quoi. Il débarque, il voit tout ce monde. Il dit, mais c'est incroyable, que se passe-t-il ici ? Il va vers le Vauca qui arrête ses tam-tams. Puis il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur, ici ? Puis le Vauca lui dit, ah, mais ici, c'est tous les jours comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime chez les Jurassiens. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé le journal La Tuile, parce que le Jurassien, toujours, malgré tout, il y avait de l'humour. Il y avait beaucoup plus d'humour que de haine.
L'écriture, on va y venir, hein. Vous êtes mis à rédiger les procès-verbaux des assemblées du Bélier, des procès-verbaux un petit peu à votre sauce. Comment ça s'est passé, tout ça ?
C'est-à-dire que on avait un pote de Saint-Imier, puis il faisait ses procès-verbaux, il n'était pas là, il a oublié de les faire, ou il ne savait plus quoi écrire, enfin, il n'était pas très sérieux, puis ils m'ont demandé de les faire, ces procès-verbaux. Ça m'a fait la plume. Alors, je me suis dit, si j'accepte de faire les procès-verbaux, parce que depuis l'affaire hier, ça faisait quand même des bouts, hein, de aller se retrouver à Delémont, de après rentrer, les Franches Montagnes, il y avait encore les parcours, le brouillard, les vaches, les chevaux au milieu de la route. Et puis, je me disais, ça t'obligera à être devant, puis à y aller, quoi. Alors, j'ai accepté ça. Mais mon premier procès-verbal, j'ai jamais pu me retenir. J'ai écrit 2-3 bêtises, je me suis un peu... Mais c'était un peu coincé, le Bélier. Hein. C'était tout des types qui faisaient partie de partis politiques du Nord. Et puis, messieurs, c'était très sérieux. Puis j'ai pas pu me retenir d'écrire 2-3, de brocarder un ou deux gaillards. Et j'ai pris, comme je l'ai dit, j'ai chopé du bide après. Mais là, c'est mon premier gros bide que j'ai chopé. Le froid total. Et à peine j'avais fini, heureusement, un point... s'est abattu, un vrai point teignant. C'était Luc Soulman qui a dit « Nom de Dieu, enfin un procès-verbal où je ne m'emmerde pas !» Puis là, j'avais gagné la partie, puis après, je me suis fait la plume pour la suite, en brocardant une fois celui-là, une fois celui-là. Puis on commençait toutes nos séances par des écrasés de rire, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire rire ses copains en se moquant d'eux, quoi.
Tout ça, ça vous a amené quelque part à créer la tuile. C'est un peu au bélier avec cette activité de rédacteur des procès-verbaux que vous avez exercé vos talents de satiriste, en tout cas au début.
C'est-à-dire que je suis parti à l'étranger. Je voulais voir si notre lutte était cohérente. On était les petits choux un peu ici, enfin, pas dans le sud, on se faisait casser la gueule dans le sud. Mais... Et puis là, je suis parti une année en Colombie, et après une année au Québec. En rentrant en première fête du pub, j'ai trouvé ça d'un pompier. Il y avait déjà le présentateur, c'était un vrai camelot. Et puis après, ça pleurnichait. Puis je me suis dit, mais c'est... Le Jura, c'est pas ça. On faisait ces espèces de messes où il y en a un qui disait un poème chiant, puis on devait tous répéter, comme à l'église, c'est pas mon style. Et puis, je lance une fois, ben, c'était justement chez Lux, hein, on se voyait beaucoup. Puis je lance cette idée, mais on devrait essayer de faire un journal. Les gens aiment rire. Et puis, l'idée, c'était, au début, c'était assez manichéiste. Il y avait les bons jurassiens, puis les mauvais. Mais ça a duré pas deux numéros, hein. Et puis, on attaquait les fripouilles, quoi.
Vous parlez de poèmes un peu chiants, mais vous avez aussi, vous, écrit des textes, on va dire, plus poétiques, même un texte qui s'appelle « Ce soir », qui avait été choisi, alors vous le chantiez pour figurer sur un disque qui était paru après le vote du 24 septembre. Il y avait quand même aussi cette dimension, certes, de s'amuser, mais là, pour le coup, aussi une dimension plus... humaine, affective, dans votre engagement.
Il n'y avait pas que le rire. Ce soir, j'ai besoin de silence. Ce soir, oui. D'ailleurs, j'avais fait ce texte, et c'est quand le Jura a pété, en allant à Moutier, quand le Jura a pété, j'ai fait ce texte. Parce que nous, les sudistes, le 23 juin, on n'était pas joyeux. On savait tous que c'était la fin, que le Jura Sud serait perdu. On le savait. Et moi, je pensais à mes parents qui étaient dans le Jura Sud, et je pensais à mes amis qui étaient dans le Sud, quoi. Et j'ai fait aussi un texte sur les Franches-Montagnes, j'ai fait différents textes. Ça ne veut pas dire parce qu'on aime rigoler qu'on doit tout le temps rigoler. Il y a aussi... Et puis là, j'ai eu la chance que Coumer, qui était aussi du Jura Sud, m'a fait une musique magnifique sur ce texte. Et puis quand tu fais un texte sur les Franches-Montagnes, tu le dis devant toute une salle, avec ces gros bûcherons, ces teignants, ces solides, quand des grosses larmes dans les yeux, tu te dis, ben, c'est aussi ça, c'est l'émotion, c'est pas seulement rire, ha ha ha, puis se péter la tronche avec de la gentiane.
Il y a cette dimension culturelle dans la lutte du Jura, mais vous l'évoquez aussi en parlant de ce texte. Le 23 juin, vous n'étiez pas content, vous qui étiez du Sud, du Jura Sud. Précisément dans ces années-là, les années 60, qu'est-ce que ça représentait d'être autonomiste comme vous qui veniez de Sonvilliers puis qui ensuite avait travaillé à La Ferrière?
On était systématiquement détestés. Pour ça, les gens du Nord, les gens du Nord, c'est rigolo. Il y avait, je me rappelle une fois, dans les équipes de télé qui venaient nous trouver, il y avait un Corse qui faisait partie. Il disait, c'est incroyable ici, il y a le Nord, et puis il y a le Sud. Puis c'est au Nord que les gens sont sympathiques, puis c'est dans le Sud qu'ils sont froids, et qu'ils refusent de nous parler. Et puis aussi une fois un Québécois qui disait, mais enfin, on nous dit, on a de l'aimant, on va dans le Sud. Et puis on fait 10 minutes, puis on est dans le Sud. Ça le faisait rire, eux, qui ont un sens incroyable des distances, qui n'ont pas du tout, eux, tellement c'est grand chez eux. Mais enfin, voilà. Alors, être autonomiste dans le Sud, ça voulait dire être détesté à l'école, être détesté par les profs. Puis se casser la gueule à la récréation, on mettait toujours 2 contre 7, 8. Et puis se faire crever son vélo, rentrer. Moi, je rentrais à Sonvilliers, ça faisait 4 kilomètres. Souvent, je vais passer mon vélo jusqu'à la... Souvent, plusieurs fois en tout cas, jusqu'à la sortie de Saint-Imier, où il y avait un vieil Italien qui me réparait mon vélo, ou bien qui m'en prêtait un pour que je puisse rentrer dîner, pas me faire trangler par ma mère parce que j'étais en retard. Et on avait fait une fois, je me rappelle, avec des gens, ben justement des copains du Jurano, dont celui qui est devenu journaliste Vincent Philippe, il y avait Bedda qui est devenu directeur du lycée, et puis on avait convoqué des jeunes à Cormoret dans un restaurant pour discuter de la question jurassienne. Simplement ça. On avait lancé des convocations pour évoquer ce problème. Et quand on est arrivé, on était 4-5, il y avait les deux frères Grimm puis moi de Sonvilliers, eh bien, il y avait 60-70 qui nous insultaient en suisse allemand. « Ouais, les séparatistes, foutez le camp en France !» Ils nous envoyaient en France, ils nous envoyaient au Vatican, ou bien ils nous envoyaient à Moscou. « Foutez le camp à Moscou !» On a été tellement coincés dans ce bistrot que mes copains ont réussi à partir. Moi, j'ai voulu faire le malin, puis j'ai voulu aller jusqu'aux toilettes, puis j'ai voulu traverser cette meute pour montrer que je ne voulais quand même pas faire dans mon froc. Mais en sortant, ils nous attendaient avec des crachats et des seaux d'eau, ils n'étaient pas chauds. Ils nous ont aspergés de crachats de seaux d'eau. Les autres étaient déjà partis en avance. Et puis j'ai réussi à reculer, j'ai réussi à traverser cette foule sans m'affoler, puis en écrabouiller un. Mais trouver tant de haine, c'est pas ça qui m'a rendu raciste ou anti-suisse allemand, hein, pas du tout. Mais quand tu viens de Sonvilliers, que tu es originaire de là, puis que tu te fais insulter en suisse allemand, cracher dessus, foutre des seaux d'eau, il y avait la rivière juste à côté, des seaux d'eau glacés, simplement avant d'avoir pu dire un mot, c'était leur façon de dialoguer. Et quand Roland Béglin, au début, quand il allait essayer de faire une causerie dans le Jura Sud, eh ben, il est venu chez nous, chez mon père, à Sonvilliers aussi, qui était séparatiste, eh bien, il devait aller avec des gros costauds. Il y avait les frères Lardon, qui étaient champions suisses de lutte, je crois. Il y avait des gaillards formidables. Et même pour aller voir sa mère, il devait avoir des gardes presque armés pour aller voir sa maman à Tramelan. C'est inouï ce qu'on a subi. Puis après toutes les meutes de sangliers, où tu avais des sangliers qui inspectaient ton auto, ils barraient la route. Et à côté, il y avait des flics qui ne bougeaient pas, qui les laissaient faire. C'est incroyable ce qu'on a vécu comme non-droit dans le Sud.
Dans votre vie professionnelle aussi, en tant qu'enseignant à la Ferrière, étiqueté et connu pour être autonomiste, vous avez eu des problèmes avec ça ?
Mais pour vous dire qu'on était ostracisés, on est sortis de l'école normale 6 mois avant, parce qu'il manquait beaucoup d'enseignants. Moi, il m'envoie à Tavannes. On fête nos examens, on avait pratiquement tous réussi. Et puis, tout le monde, tous mes copains, commençaient le lundi. C'était un jeudi, nos examens, puis on recommençait le lundi. Moi, je ne pouvais pas me douter de ça, ils m'ont fait commencer le lendemain, le vendredi. Donc, j'étais rentré en stop, je dormais bien, moi j'étais sûr que je commençais le lundi. Et je reçois un téléphone, voilà, je devais enseigner à Tavannes. J'arrive à Tavannes en stop, hein, donc en retard, quoi. Ils m'ont fait commencer là, et puis le directeur, il s'avère que le directeur, eh bien, c'était l'officier qui m'a foutu dehors du recrutement, donc il ne m'aimait déjà pas d'avance. Puis là, vraiment, c'était... Mais, par exemple, il y avait 2 classes de quatrième, et dans une des classes, j'avais le fils, parce qu'il y avait des jumeaux, Aubry, le fils de Madame Aubry. Et puis, comme c'était des quatrièmes et qu'il fallait les faire passer à l'école secondaire, toi, tu venais d'arriver, t'es un gamin. Mais en même temps, il y avait bientôt Noël. Et puis, ils m'ont demandé de diriger le chœur parce qu'il n'y avait personne qui pouvait diriger le chœur. Voyez, vous êtes un gamin, vous sortez, puis il fallait prendre de 5 à 9 les élèves, les faire chanter, préparer les chants de Noël. J'ai fait ça pas trop mal. Le jour où on devait chanter à l'église, juste avant... Ils m'ont dit, non, c'est pas vous qui dirigez, vous pouvez pas diriger à Tavannes. Et puis ils ont fait diriger l'autre qui savait pas diriger, mais c'est drôle, hein. On était systématiquement ostracisés. À la Ferrière, je dirigeais le chœur mixte. Il y avait toujours un chœur d'ensemble. Le chœur d'ensemble, c'est toujours le directeur du lieu qui le dirige. Eh ben là, ils m'ont interdit dans mon propre village, ils m'ont interdit de diriger le chœur d'ensemble. On était tout le temps comme ça, sur la touche, quoi. C'était, voilà. Je m'en foutais un peu, mais quand même.